Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur nos ondes locales ou en podcast pour une nouvelle chronique du passé. Ben alors, bonjour Rémi.
Bonjour Martine et bonjour à vous tous, auditeurs. Nous allons nous promener aujourd'hui ?
Oui, en effet. Nous allons emprunter la traverse, cette voie verte aménagée sur la plateforme de l'ancienne voie de chemin de fer qui reliait Bourg à Saint-Trivier-de-Courte et plus loin jusqu'à Chalon-sur-Saône.
Comme nous le verrons, sa genèse a été un peu difficile. Avant d'en parler, nous nous accordons une ambiance ferroviaire. La voie verte entre Attignat et Saint-Trivier-de-Courte est en cours d'aménagement. Avant la guerre de 1939-1945, elle était encore parcourue par des trains à vapeur. Qui en a eu l'idée ?
Ce sont les Bressans qui l'ont souhaité dès 1861. Rappelons le contexte. Une ligne de Satonnet à Bourg est en projet pour assécher 6000 hectares d'étangs et amener de la vitalité à la Dombes. Rien n'est encore fait, mais les Bressans expriment déjà le souhait de la voir se prolonger à travers leur pays.
Ces Bressans que l'on qualifie volontiers d'apathiques sont plutôt avant-gardistes.
Oui, cela tient à l'époque. Le chemin de fer, arrivé à Bourg-en-Bresse depuis juin 1856, offre une belle opportunité pour écouler les produits agricoles, source de richesse. Bourg n'est guère qu'à 12 heures de Paris, ainsi que des rives de la Méditerranée. De nouveaux marchés s'ouvrent. Il ne faut pas se laisser devancer par la concurrence.
Le dossier est aussitôt repris par le Conseil général de l'Ain.
En effet, les conseils municipaux des communes susceptibles d'être concernées sont sollicités pour prendre une délibération en faveur de ce chemin de fer dès 1862. Ce sera la ligne de la Haute-Bresse.
Le texte des délibérations est fortement suggéré par la préfecture. On peut relever une belle formulation administrative que vous allez nous lire, Martine.
Alors je cite. Ce chemin raccourcirait notablement la distance de Paris à la frontière d'Italie et à Genève et traverserait une contrée riche, populeuse, à laquelle il ouvrirait des débouchés nouveaux pour les produits abondants de ses champs, de ses étables, de ses basses-cours et apporterait les matériaux nécessaires pour la construction et même l'entretien de ces chemins vicinaux. Sous l'influence d'une telle voie de circulation, la contrée serait heureusement et rapidement modifiée.
Voilà de belles perspectives. Les délibérations des conseils municipaux sont complétées par une adresse à l'empereur, car le préfet veille à valoriser l'œuvre de Napoléon III.
Alors, je cite. Le conseil municipal, connaissant toute la bienveillance de l'empereur et de son gouvernement pour l'agriculture, pour le bien-être des classes laborieuses, pour une égale et équitable répartition des grands travaux publics et des éléments de progrès entre toutes les parties de l'Empire, adhère unanimement à ces considérations.
Donc, tout est en ordre.
Oui, presque. Parce qu'il faut une compagnie ferroviaire pour concevoir et exploiter la ligne. Les grandes compagnies sont réticentes à prendre en charge des lignes locales à la rentabilité faible ou incertaine.
Le département a déjà un partenaire pour la Dombes.
La Compagnie des Dombes, fondée en 1863, est approuvée par un décret impérial d'avril 1864. Le capital est détenu à 55% par les frères Lucien et Félix Mangini, des ingénieurs de Lyon. Leur père a œuvré auprès de Marc Seguin, l'entrepreneur ferroviaire.
Les travaux de la ligne de la Dombes, par Villars-les-Dombes, sont en bonne voie, si l'on peut dire. C'est à ce moment que le préfet invite le Conseil général à voir plus grand.
Et à concevoir un réseau départemental en ajoutant 6 nouvelles lignes. La Haute-Bresse, les lignes de Bourg à Lacluse, d'Ambérieu à Villebois, de Gex à Genève par Ferney, de Belley à Rossillon ou Virieulegrand, et plus étonnant, une ligne à travers la Dombes de Pondin à Trévoux.
Le département de l'Ain sera bien doté en chemins de fer d'intérêt local, qui sont aussi évoqués à la Chambre des députés.
Les débats aboutissent à la loi du 12 juillet 1865. Elle finance le financement des chemins de fer d'intérêt local à Troyes. La moitié par l'Empire, un quart par le département et l'autre quart par les communes concernées. Cela permet d'acquérir les terrains nécessaires qui sont ensuite remis à la compagnie ferroviaire qui se chargera de construire la voie, d'aménager les gares et les passages à niveau.
Martine, revenons à notre ligne de la Haute-Bresse.
Mais bien sûr, d'autant plus qu'à l'automne 1865, les communes sont invitées à voter le financement qui leur est proposé. Comme la somme souhaitée n'est pas atteinte, la procédure est relancée au printemps de 1866 avec plus d'insistance. Le total est atteint grâce à la participation du député Léopold Lehon pour plus de 2800 francs. Et voilà, les 100 000 francs sont atteints. La procédure peut reprendre son cours.
Le dossier est alors transmis au ministère, qui rend un verdict favorable par un décret impérial du 30 mars 1867. Un homme a sans doute joué un rôle important.
Le député et président du Conseil général de l'Ain, Léopold Lehon. Il est très proche du pouvoir impérial. C'est lui qui a fait découvrir la volaille de Bresse aux Parisiens par des concours. Au Parlement, il a été le rapporteur de cette loi de 1865 que nous avons évoquée. Il connaît bien les chemins de fer d'intérêt local. Et là, pour l'Ain, il obtient trois lignes dans un premier temps, de Bourg à La Cluse, d'Ambérieu à Villebois et de Bourg à Saint-Germain-du-Plain en Saône-et-Loire. C'est là que notre ligne de la Haute-Bresse rejoindra la ligne de l'Aulcenier à Chalon-sur-Saône.
Pour construire et gérer ces lignes, il faut un concessionnaire.
Léopold Lehon peut compter sur les frères Félix et Lucien Mangini qui ont créé, rappelons-le, en 1863, la Compagnie des Dombes avec l'aide du Crédit Lyonnais et d'industriels lyonnais. Ils ont déjà construit la ligne de la Dombes et obtenu d'autres concessions en Saône-et-Loire. Ils sont aussi propriétaires des chantiers de la Buire à Lyon, un site de construction de matériel ferroviaire. Ils ont tous les atouts pour réussir.
Pourtant, tout ne se réalise pas comme prévu pour notre ligne de la Haute-Bresse.
Oh, les raisons sont multiples. La ville de Louhans préférerait une ligne Bourg-Louhans. Les frères Mangini se consacrent d'abord à la ligne de la Cluse. Survient la guerre de 1870 et ensuite diverses formalités tardent à être réalisées.
Les frères Mangini ont besoin d'un emplacement pour leur propre gare à Bourg. Et ce n'est pas simple.
Leur compagnie est en concurrence avec le PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée. Et les ingénieurs du contrôle refusent qu'une voie de la Compagnie des Dombes cisaille une ligne PLM. Il faut éviter tout risque de collision entre des trains.
Quelle est la solution adoptée ?
Finalement, la gare de la Compagnie des Dombes est construite en adjonction à la gare du PLM côté sud. Au pied de ce bâtiment arrivera la ligne de la Cluse et les voyageurs rejoindront les autres lignes par une passerelle qui enjambe les voies PLM jusqu'au quai numéro 4.
Le départ de la ligne de la Haute-Bresse se fera donc de ce quai numéro 4 en prolongement de la ligne de Villars. Et au-delà de Bourg, la ligne franchira celle de Mâcon par un saut de mouton, un passage supérieur à construire. Quand la ligne ouvre-t-elle ?
Toutes les procédures ont été compliquées. Nous espérons que nos auditeurs ont pu les démêler. Le train inaugural, mis en place par Félix Mangini, circule en aller et retour le 3 janvier 1878 et, après, un grand banquet rassemble les 80 invités au buffet de la gare en présence des préfets de l'Ain et de Saône-et-Loire.
Avec un grand absent.
Léopold Lehon. Il est pourtant toujours actif dans l'Ain, mais la chute du Second Empire a sonné sa disgrâce. Un homme de Romenay le fait remarquer au courrier de Saône-et-Loire. Les Bressans lui sont beaucoup redevables, mais ils n'appréciaient pas son caractère hautain. C'est Henri Germain, le créateur du Crédit Lyonnais et actionnaire de la Compagnie des Dombes, qui lui a succédé à la présidence du Conseil général de l'Ain.
La ligne est ouverte au service commercial au 15 janvier 1878. Elle connaît quelques péripéties avec des déraillements mineurs, parfois dus à des glissements de terrain. Comme prévu, elle favorise le transport des produits agricoles. Mais quelle a été sa pérennité ?
À la fin des années de 1870, le gouvernement souhaite rationaliser les chemins de fer et favoriser les regroupements au sein des grandes compagnies. Les frères Mangini se sentent en danger et ils préfèrent se vendre au PLM à un prix négocié plutôt qu'être contraints à une absorption. Le rachat est effectif au 1er janvier 1884.
C'est la fin d'une belle aventure ferroviaire pour les frères Mangini.
Oui, ils étaient parvenus à établir l'une des plus belles compagnies ferroviaires dites secondaires. Néanmoins, ils quittent le train sans regret. Ils se consacrent à d'autres œuvres et dans l'Ain, Félix Mangini crée un sanatorium à Hauteville. Et c'est pas rien.
Que devient la ligne de la Haute-Bresse ?
Le PLM reprend l'ensemble des lignes Mangini. Il les consolide pour que des locomotives plus puissantes puissent y circuler. À Bourg, la gare est réorganisée et la passerelle est démolie en 1888. Les chemins de fer vivent encore de belles années jusqu'à la Première Guerre mondiale, car ils sont indispensables à l'économie.
Et après cette Première Guerre mondiale ?
Les transports automobiles se développent et font concurrence aux trains. À la fin des années 1930, les pouvoirs publics s'interrogent sur la pertinence du maintien des lignes secondaires. En 1838, la ligne de Bourg à Châlons échappe au couperet grâce à l'action des élus locaux.
La Seconde Guerre mondiale survient.
La ligne est maintenue pour quelques trains, malgré la destruction du pont sur la Saône à l'entrée de Châlons à l'été 1940. Et après l'armistice, elle est aussi coupée par la ligne de démarcation. Ah, cela complique les voyages. La ligne n'a pas d'intérêt stratégique particulier, mais la résistance préfère détruire les ponts. Après-guerre, ces ponts seront reconstruits, mais seuls quelques trains de marchandises circulent et la ligne est définitivement fermée en juillet 1951.
La voie elle-même reste en place.
Jusqu'aux années 2000. Des projets ferroviaires ont été étudiés pour la réutiliser, mais sans résultat. L'idée de la transformer en voie cyclable a été émise dès les années 1970. Elle se concrétise de nos jours après que le Conseil général de l'Ain ait acquis la plateforme.
Notre voyage dans le temps se termine.
Alors, descendons du train. Nous vous invitons à découvrir l'historique détaillé de cette ligne sur le site des Chroniques de Bresse. Et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain. Merci à Jimmy et au revoir à tous. Ah, nous nous quittons avec une polka d'Edouard Strauss, sans frein.